Vous écoutez, on lit pour vous.
Densifier sans dénaturer les quartiers montréalais, un texte de Jeanne Corriveau, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir. Par son nouveau plan d'urbanisme et de mobilité, PUM 2050, Montréal veut densifier son territoire. Cette opération ne consiste pas uniquement à planter des tours dans les secteurs à développer. Les quartiers centraux, avec leurs plexes parfois centenaires, n'y échappent pas. Est-ce une bonne idée de vouloir ajouter des étages aux immeubles existants? Le PUM, qui a obtenu l'approbation du Conseil municipal de Montréal, est décrit comme une feuille de route visant à guider l'évolution des quartiers montréalais. Avec pour trame de fond l'objectif de 200 000 nouveaux logements, le plan prône un développement en hauteur, aux abords des infrastructures de transport lourds et dans les secteurs à requalifier. Dans les quartiers centraux, on évoque des intensifications douces et intermédiaires. Une carte montre d'ailleurs des quartiers entiers visés par cette intensification intermédiaire, parmi lesquels Villeray, Rosemont-la-Petite-Patrie, Hochelaga-Maisonneuve, Verdun et l'ouest du plateau Mont-Royal. Responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la ville, Robert Baudry a expliqué, lors de la présentation du PUM, comment la densification intermédiaire pourrait se réaliser sur le terrain. Citant le cas de duplex, il soulignait que de tels immeubles pourraient passer de 2 à 4 étages si l'arrondissement le jugeait opportun, selon les demandes reçues. C'est une densification qui va arriver au fur et à mesure. Nous, on libère le potentiel, mais en arrondissement, ils vont le traduire en termes de permission de hauteur et de densité. Ainsi, avait-il dit, les procédures seraient simplifiées pour les arrondissements qui n'auraient pas à demander une modification au plan d'urbanisme. Ce que les gens de ce quartier-là vont voir, c'est tranquillement des projets, peut-être un peu plus denses, mais qui ne sont pas en rupture avec le cadre bâti actuel, qui s'harmonise avec les milieux de vie. Ce n'est pas demain matin que ces changements-là vont se mettre en place, avance Christian Savard, directeur général de Vivre en ville. Chaque arrondissement aura des objectifs de densification, mais, selon lui, les secteurs comportant des plexes, qui sont identifiés comme des zones de densification douce ou intermédiaire, ne seront pas défigurés. Je pense que les mécanismes qui permettent l'intensification intermédiaire vont avoir tendance à protéger les secteurs de plexes montréalais, dit-il. Je ne pense pas que la rue Saint-André va être dénaturée en raison du PUM. Selon lui, les densifications sont plus susceptibles de se faire le long des artères à fort gabarit, comme le boulevard Saint-Michel. Il juge même que le PUM aurait pu aller plus loin, en permettant une densification plus importante dans les secteurs d'unifamilial situés près des stations de métro, dans l'est de Montréal notamment. Combiner l'ancien et le nouveau, l'architecte Catherine Milanaise, de la firme MOA, voit d'un bon œil la densification telle que prônée dans le nouveau plan d'urbanisme. Le PUM permettra peut-être de simplifier les processus d'approbation des projets et d'uniformiser certaines pratiques qui, à l'heure actuelle, varient d'un arrondissement à l'autre, selon elle. Elle cite le plateau Mont-Royal qui, en 2017, avait tenté d'interdire la construction de mezzanines avant de reculer. L'arrondissement voisin, Rosemont-la-Petite-Patrie, propose plus de latitude pour augmenter les hauteurs des plexes dans certains secteurs à 3 étages. Sa firme a travaillé sur plusieurs projets de mezzanines qui représente 40 % de l'aire de plancher et d'ajout d'étage complet. Elle évoque le cas d'un duplex de Rosemont-la-Petite-Patrie auquel un étage a été ajouté avec une touche contemporaine sans dénaturer le bâtiment. Ça permet d'agrandir pour une famille sans supprimer de logement. Elle déplore toutefois qu'à Montréal, la réglementation ne permette pas la construction de pièces accessoires lorsque la porte du nouveau logement ne comporte pas d'adresse postale sur rue. Dans certains secteurs où les îlots sont grands, il y aurait la possibilité de faire une petite construction arrière, mais ce qui bloque, c'est le fait que les ruelles ne sont pas considérées comme des adresses postales. Crainte de dérive. Dans bien des cas, l'ajout d'étages sur les immeubles existants a peu d'effet pour augmenter les densités, d'autant que les quartiers centraux à Montréal figurent déjà parmi les plus denses du Canada, fait remarquer l'urbaniste émérite et professeur à l'Université de Montréal, Gérard Baudet. On le voit avec les shoebox. Ajouter un étage, ce n'est pas densifier. Ajouter un étage permet aux gens d'être plus confortables dans une maison qui est plus grande. On peut penser que la même chose se produit, par exemple, pour un duplex en copropriété, dit-il. Le discours politique sur la densification entendu dans les derniers mois lui fait craindre des dérives. L'annonce récente concernant des tours de 17 et 25 étages sur le site de l'ancien Institut des sourdes muettes témoigne du nouvel engouement pour la densification. C'est devenu un impératif non contournable que personne ne peut critiquer à défaut de se faire accuser de tous les maux, notamment d'être contre la solution à la crise du logement. Cela a des conséquences extrêmement déplorables. On a conféré le gros bout du bâton aux promoteurs qui peuvent faire de la pression indue sur les élus en sachant très bien qu'un élu qui va dire non va se faire accuser de cultiver la crise du logement. On est dans un tournant où on a besoin d'intensifier ou de densifier le territoire, reconnaît Nathalie Prudhomme, présidente de l'Ordre des urbanistes du Québec. Mais concernant les quartiers centraux, la ville témoigne d'une sensibilité pour protéger l'identité du cadre bâti existant qui fait les caractéristiques propres à Montréal, croit-elle. On souhaite quand même que le travail se fasse, surtout là où il y a des terrains vacants, des espaces de redéveloppement ou encore sur les terrains sous-utilisés. Selon elle, il est possible de revoir la hauteur de certains bâtiments pourvu que les arrondissements soient bien outillés pour travailler dans le détail. À ceux qui remettent en question l'utilité d'ajouter des étages quand cette opération se limite à un simple agrandissement de l'aire de vie, Nathalie Prudhomme fait remarquer qu'il s'agit d'un moyen de garder les familles à Montréal. Densifier sans dénaturer, voilà tout le défi autour de l'application des principes de densification, souligne Dinu Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, qui fait d'ailleurs remarquer que les quartiers de Plex figurent déjà parmi les formes optimales de densité et qu'il est futile de vouloir absolument se comparer à d'autres grandes villes. Il suggère que le comité mixte, issu du Conseil du patrimoine de Montréal et du comité Jacques Vigée, épaule les arrondissements dans leurs travaux visant la densification de leur territoire. Il y a une densification qui est heureuse, mais il y en a une autre avec laquelle on sera pogné longtemps, rappelle-t-il. C'était « Densifier sans dénaturer les quartiers montréalais », un texte de Jeanne Corriveau, paru le 23 juin 2025 dans Le Devoir.
Faire de l'argent comme de l'eau. Quel est le prix de la marchandisation? Un texte d'Arlie Bossom, Élise Miara, Carla Roche, Philomène Sénéchal et Alexis Thériault, paru le 6 mai 2025 dans Pivot. Depuis février 2025, l'entrepreneur québécois Olivier Primeau fait la tournée des médias. Il dénonce les profits dérisoires que la province fait avec son eau. Pour y remédier, il a présenté au ministère de l'Économie un projet mystère. Son plan, qu'il compte dévoiler sous peu, aurait pour objectif de valoriser l'eau de source du Québec, vraisemblablement par une forme de nationalisation qui permettrait aussi aux entreprises de faire leur part de profit. Marchandiser notre eau la mettrait-elle en péril? Il y a un marché pour l'eau. L'entrepreneur vedette Olivier Primeau, chef et responsable de marque pour la compagnie Prime Drink, en a pris conscience. La compagnie a acquis 6 des 42 permis de captage d'eau de source autorisés dans la province, ce qu'il estime représenter 33 à 36 % de l'eau de source exploitable au Québec. Ces permis lui permettraient de prélever jusqu'à 3,4 milliards de litres d'eau par an, explique-t-il en entrevue avec Pivot. Ce n'est pas tant la captation immédiate qui intéresse Olivier Primeau, assure-t-il, puisque Prime Drink n'en fait pas encore, mais plutôt une mise en valeur collective d'une ressource qu'il juge sous-évaluée et mal gérée par le gouvernement. En plus de sa vision clairement commerciale, il se dit aussi préoccupé par la préservation de l'eau. Les sécheresses liées au changement climatique et les tensions géopolitiques avec nos voisins américains qui convoitent l'eau canadienne, prennent une place grandissante dans le débat public. Dans ce contexte, les préoccupations liées à l'eau, dont le Québec est riche, deviennent de plus en plus cruciales. C'est ainsi qu'en février 2025, Olivier Primeau a rencontré la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, pour lui présenter son plan « Valoriser et protéger l'eau du Québec pour un avenir prospère ». Si les détails du plan sont tenus secrets, les grandes lignes en sont connues. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'entrepreneur dit souhaiter protéger l'eau, notamment des intérêts étrangers, mais aussi qu'elle contribue activement à la prospérité du Québec, grâce à des projets capables de générer des revenus dans la province pour renforcer notre économie et la rendre plus indépendante. Citation : Le but de ce que j'ai présenté au gouvernement, c'est en deux volets. Il y a un volet vraiment financier. Puis l'autre, c'est de la préserver pour nous autres au Québec. Fin de citation, explique-t-il à Pivot. Le dévoilement du plan d'Olivier Primeau au grand public est prévu en début d'été 2025, dit-il. Il espère pouvoir en faire l'annonce conjointement avec le gouvernement. L'entrepreneur aurait d'ailleurs rencontré le premier ministre François Legault le 24 avril dernier pour discuter des négociations finales concernant son projet de valorisation. La gestion de l'eau potable québécoise pourrait couler vers la privatisation, vers la nationalisation ou bien suivre son modèle actuel. Mais sur quelle rivière naviguons-nous présentement? Le statu quo, l'eau, un patrimoine commun. Actuellement, l'eau est considérée comme un patrimoine commun au même titre que l'air. C'est une ressource qui n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. C'est ce que garantit la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau, tandis que le Code civil en définit les conditions d'appropriation. Citation : Au-delà de 75 000 litres par jour, l'équivalent d'une grosse piscine hors terre, tu as besoin d'une autorisation pour prélever de l'eau. Fin de citation, explique Olivier Pitre, directeur de la Société des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette règle garantit que l'eau est utilisée de façon responsable en fonction des besoins collectifs de la population. Citation : Toute décision que prend le ministère de l'Environnement doit prioriser les besoins de la population en matière de santé, de salubrité, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable. Donc, ça veut dire que le motif d'intérêt public est plus important que l'intérêt privé d'une entreprise. Fin de citation, ajoute Olivier Pitre. Le gouvernement a ainsi instauré, à l'aide de permis de captage d'eau, une structure en vue de protéger l'eau et non de faire du profit en l'exploitant. Mais si l'eau est un bien commun, pourquoi permettons à des entreprises privées de s'approprier des permis de captage qui leur permettent de la vendre? C'est la question que nous avons tenté de poser à la ministre de l'Économie, Christine Fréchette. Le ministère n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à ce sujet. Même son de cloche de la part du ministère de l'Environnement. Citation. Ce qui appartient aux gens, c'est les permis pour pomper. Si tu as des permis pour pomper l'eau, l'eau est à toi. Fin de citation, dit quant à lui Olivier Primeau. Abordant cette nuance, Olivier Pitre illustre que, citation, s'il y avait un marché pour l'air, une compagnie pourrait l'embouteiller et la ressource commune deviendrait alors une propriété privée au même titre que l'eau. Fin de citation. Le marché exerce donc une pression sur le caractère collectif de l'eau, dont l'État est gardien. Valorisation et marchandisation. Cela dit, Olivier Primeau estime que l'encadrement actuel limite le potentiel commercial de l'eau ainsi que les bénéfices que le Québec pourrait en retirer. Citation. On donne zéro valeur à l'eau ici au Québec quand il y a plusieurs endroits sur la planète où l'eau vaut extrêmement cher. Fin de citation, dit-il. En plus de délivrer des permis, le gouvernement touche des redevances qui sont des frais payés par les entreprises pour leur prélèvement d'eau. Mais malgré une hausse de 900% depuis le 1er janvier 2024, le taux des redevances reste très bas, plafonnant à seulement 500 $ par million de litres prélevés destinés à l'embouteillage. Citation. Je crois que la redevance n'est pas assez haute. Fin de citation, souligne aussi Éric Laforte, directeur général d'Amaro, une entreprise québécoise d'embouteillage. Olivier Primeau fait de plus une critique acerbe du système actuel où des entreprises états-uniennes comme Aquafina ou Dasani puisent dans les infrastructures québécoises pour embouteiller et vendre l'eau sans investir dans l'entretien des réseaux d'aqueducs. Un autre aspect de ce modèle inquiète l'homme d'affaires, le transfert des permis d'exploitation. Citation. Moi, je peux vendre mes permis à qui je veux, à des Chinois, à des Émiriens, à des Américains. C'est ça qui est un gros enjeu. Fin de citation. Même son de cloche de la part d'Éric Laforte. Il confirme qu'Amaro a reçu plusieurs offres d'achat étrangères et que son propriétaire, Daniel Colpron, citation, a toujours dit que de son vivant, il ne vendrait pas et surtout pas aux Américains. Fin de citation. L'appropriation étrangère dépendrait donc de la bonne volonté des détenteurs de permis. En effet, Marc Bichet, avocat au Centre québécois du droit de l'environnement, CQDE, confirme que le transfert de permis est possible. Cependant, la loi oblige le nouveau détenteur à respecter les conditions d'autorisation initiales. Malgré un discours orienté vers le rapatriement des revenus pour la collectivité, Olivier Primeau ne cache pas qu'il a des ambitions personnelles derrière ses investissements. Il soutient que la demande en eau de source va rapidement augmenter. Selon ses dires, la valeur de Prime Drink serait passée de 8 millions de dollars à plus de 70 millions de dollars depuis l'acquisition des permis de captage. Ce bond serait attribué à la spéculation des marchés financiers. Cependant, cette valeur reste abstraite tant que l'eau reste un bien collectif, disponible gratuitement pour la plus grande part des consommateurs-consommatrices. Citation. Il n'y a pas de valorisation tant que tu n'en as pas besoin. Le pétrole, il y a 300 ans, ça valait zéro parce que personne n'en avait besoin. Fin de citation, résume Olivier Primeau. Citation. Olivier Primeau, sa priorité, c'est qu'il détient des actions dans Prime Drink. Fin de citation, souligne Rebecca Pétrin, directrice générale de l'organisme Au Secours. Citation. Ça fait 2-3 ans qu'il dit qu'à un moment donné, ses actions vont valoir cher parce qu'il va pouvoir vendre l'eau dont il est propriétaire. Mais il n'est pas propriétaire. Il a des permis de captation pour un volume donné par année, pour un usage donné, soit faire de l'embouteillage. Fin de citation, explique-t-elle. Citation. Mais ce qu'il veut, ultimement, c'est changer la politique de l'eau, changer les lois et règlements pour qu'il puisse vendre l'eau qui lui appartient à travers ses permis. Fin de citation. Pour cela, il faudrait rendre possible la propriété de l'eau, qu'elle soit privée ou même publique. Citation. On peut continuer à regarder Trump comme la menace, mais la menace, elle ne va pas venir des États-Unis, elle va venir de chez nous. Fin de citation, prévient Rebecca Pétrin. Selon elle, il y a, citation, des représentants politiques et économiques, fin de citation, qui mettent de la pression sur nos gouvernements pour rendre nos politiques publiques permissives et ainsi, citation, répondre aux intérêts américains, fin de citation. La nationalisation refait surface. L'idée de la nationalisation de l'eau se retrouve dans plusieurs propositions politiques visant à protéger et valoriser la ressource. Cela voudrait dire modifier le modèle de gestion de l'eau pour placer sa propriété dans les mains de l'État, alors qu'elle n'appartient actuellement à personne. Cette piste semble être suggérée dans le plan qu'Olivier Primeau a présenté à la ministre de l'Économie. L'entrepreneur compare en effet avec enthousiasme son projet avec celui d'Hydro-Québec. Mais plusieurs experts mettent en garde que la valorisation et la protection de l'eau seraient incompatibles. La nationalisation implique de donner une valeur monétaire à l'eau. Le risque aussi, c'est que si l'eau était nationalisée, sa propriété pourrait aussi être transférée à des intérêts privés. Pour Rebecca Pétrin, citation, « Donner une valeur à l'eau, ça veut dire une perte du statut commun de l'eau. » Fin de citation. L'eau deviendrait alors une marchandise comme une autre, souligne-t-elle. Ainsi, celui qui en aura les moyens décidera de l'avenir de l'eau et de son usage. Si l'eau devenait une source de profit pour l'État, sa nationalisation pourrait marquer le début d'une dérive où l'intérêt public céderait le pas à l'intérêt économique. Citation, certaines personnes pensent que ça serait une bonne façon de protéger les ressources en eau de nationaliser, dit Marc Bichet. En fait, selon nous et selon plusieurs autres personnes, ce n'est pas une bonne idée, parce que qui dit nationalisation dit quand même commercialisation. Oui, par l'État, mais il reste qu'on est en train de marchandiser quelque chose qui est essentiel à la vie. Fin de citation. Et même ainsi, citation, qui dit nationalisation dit moins grande protection, donc ça irait dans le mauvais sens. Fin de citation, craint l'avocat. Rebecca Pétrin s'inquiète aussi du fait que transformer l'eau en bien, même public, favoriserait sa privatisation. Citation, « Valoriser l'eau, ça veut dire lui donner une valeur, que ce soit par l'État, que ce soit privé. La ligne est floue après. » Tout ce qui est nationalisé peut être privatisé, mais l'inverse est plus difficile par contre. Fin de citation. Notons que l'exploitation par des entreprises n'exclurait pas non plus nécessairement les compagnies étrangères. Nationaliser impliquerait de devoir réviser entièrement le cadre juridique en place. La situation actuelle est plus favorable, selon Rebecca Pétrin. Citation, « Oui, c'est vrai qu'on a des permis d'eau. » Ellipse, « Mais ça demeure qu'un permis. Ça peut être révocable à tout moment. S'il y a une grande sécheresse, on peut retirer les permis d'eau des minières, des grosses industries, on peut le leur retirer à tout moment et garder l'eau pour l'environnement, les villes, les municipalités. » Fin de citation. À l'heure actuelle, citation, on a quand même un régime juridique intéressant qui crée des protections pour l'eau et on ne peut pas faire absolument tout ce qu'on veut avec, affirme Marc Bichet. Ce n'est pas autant le Far West qu'on pourrait le penser au Québec. Fin de citation. Citation, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, souligne Rebecca Pétrin. Le cadre même de l'eau dans la structure de protection est bon. Il faut juste continuer à le renforcer. Fin de citation. C'était « Faire de l'argent comme de l'eau, quel est le prix de la marchandisation ?» Un texte d'Arlie Bossom, Élise Miara, Carla Roche, Philomène Sénéchal et Alexis Thériault, paru le 6 mai 2025 dans Pivot. Vous écoutez « Faire de l'argent comme de l'eau, quel est le prix de la marchandisation ?» Un texte d'Arlie Bossom, Élise Miara, Carla Roche, Philomène Sénéchal et Alexis Thériault, paru le 6 mai 2025 dans Pivot.
Moi de la fierté, un cabinet d'avocats offre des services gratuits de changement de nom. Un texte de Radio-Canada avec les informations de Sarah Law de CBC, paru le 25 juin 2025 sur ICI, nord de l'Ontario. Le cabinet d'avocats Waddington et Pottinger Law, LLP, à Thunder Bay, offre des services gratuits de changement de nom pour célébrer le mois de la fierté. Le cabinet remarque de plus en plus une augmentation du nombre de personnes qui ont besoin d'aide pour leur processus de changement de nom. Parmi ces personnes, Sawyer Little, qui, avant, repoussait ses démarches. Je pensais que les formalités administratives et le processus de demande étaient vraiment décourageants, déclare Sawyer Little. Être appelé par le mauvais nom rend Sawyer Little inconfortable. Il me faut une seconde pour me rendre compte qu'il s'agit de moi, parce que je n'ai pas utilisé mon nom de naissance depuis au moins 6 ans, explique Sawyer Little. Pour Sawyer Little, le changement légal de son nom élimine la confusion et la gêne dans les salles d'attente des rendez-vous médicaux, ainsi que lorsqu'il s'agit de remplir des documents administratifs. Je pourrais me montrer d'une manière plus confiante et plus authentique, dit Sawyer Little. Des services ouverts à tous. Les personnes qui demandent le changement de leur nom doivent encore payer des frais de 137 $ au gouvernement de l'Ontario. Mais l'avocate associée, Caddy Drager, indique que son cabinet les aide gratuitement à remplir les formalités administratives et à authentifier les documents nécessaires. Ce sont des personnes qui doivent être âgées d'au moins 16 ans, apporter une copie de leur acte de naissance, la signature d'un garant et une vérification policière en cas de présence d'un casier judiciaire. Bien que les services de changement de nom soient proposés dans le cadre de la promotion du mois de la fierté, même des personnes intéressées n'appartenant pas à la communauté LGBTQ2+, bénéficient du service, selon Mme Drager. Ce service est ouvert à toute personne souhaitant changer légalement de nom, quelle qu'en soit la raison, souligne-t-elle. C'était « Moi de la fierté, un cabinet d'avocats offre des services gratuits de changement de nom ». Un texte de Radio-Canada avec les informations de Sarah Law de CBC, paru le 25 juin 2025 sur ICI, Nord de l'Ontario.